France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un crime non résolu qui semble tout droit sorti d'un roman noir, le meurtre d'Albert Lermoyer. Le 25 janvier 83, cet adjoint au maire du village de L'Écluse dans le Nord est retrouvé mort dans sa chambre d'une balle dans la tête. Dès le départ, le crime interpelle les enquêteurs. La maison est en ordre et aucune effraction n'est constatée. Surtout, les voisins n'ont rien vu, rien entendu. Le meurtre semble avoir été commis sur la pointe des pieds par un professionnel. Bien, mais qui en voulait à Albert Lermoyer ? Dans le village, les rumeurs les plus folles commencent à circuler, notamment sur la vie amoureuse de la victime. Car Albert était un grand séducteur. Faut-il chercher du côté d'une maîtresse éconduite ou d'un mari jaloux ? Pour raconter cette histoire, nous avons rencontré un témoin direct, Dominique Lermoyer, le neveu de la victime, ainsi qu'une journaliste de La Voix du Nord, Marie Goodson, qui a redécouvert l'affaire en 2020 et écrit un livre à ce sujet, « Mais qui a tué l'adjoint de L'Écluse ?» livre paru aux éditions de La Voix. Notre invité aujourd'hui, Patrice Trappier, journaliste, auteur d'une enquête parue chez notre partenaire Zadig en septembre 2021. Sur le sujet, bien sûr. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Guillaume Malandras. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Mardi 25 janvier 1983, 8h du matin. Un soleil pâle, un soleil d'hiver, éclaire le village de L'Écluse, dans le département du Nord. Situé à une dizaine de kilomètres au sud de Douai, cette localité est une commune typique de la région. Un bourg entouré de marais sur la plaine, où les maisons en briques se succèdent le long de rues étroites. Dans ce bastion communiste, tout le monde connaît tout le monde. Et parmi les 1300 habitants, on compte quatre familles principales, les Leroy, les Libérales, oui, Libérales, les Laloux, mais aussi les Lermoyer. Les quatre frères de cette famille sont des figures locales. Tous habitent dans des maisons voisines de la rue de la Fontaine, comme le raconte ici Dominique Lermoyer, le fils de l'aîné Henri.
C'était une famille qui travaille, une famille qui est d'origine modeste. Elle est établie dans ce village depuis des générations, des générations. Mon grand-père avait une petite ferme vivrière. Il a cinq enfants et sur ces cinq enfants, il y a quatre enfants qui sont établis dans le village et qui sont établis d'ailleurs dans la même rue, sur le même trottoir. Ce qui fait que de temps en temps, de façon un petit peu ironique, les gens dénommaient cette rue la rue Lermoyer.
Entrons dans cet univers à la Chabrolle. À la fois frères et voisins, les Lermoyer ont leurs petites habitudes. Par exemple, il est de coutume pour Albert, le Benjamin, d'aller tous les matins prendre son petit déjeuner chez son frère Henri et sa femme Marie-Thérèse. Mais ce 25 janvier, Albert est en retard. D'abord, Marie-Thérèse pense à une simple panne de réveil. Mais au bout de quelques heures, la voilà qui s'inquiète. Il est très rare qu'Albert soit en retard. Alors, vers 11h, elle sort de chez elle et elle frappe à la porte de son beau-frère. À l'intérieur, les deux chiens d'Albert aboient, mais l'homme ne répond pas. Bizarre. Et puis, la porte d'entrée est verrouillée. La femme prend donc son double et pénètre dans la maison. Au rez-de-chaussée, rien à signaler. La cuisine, le salon, tout est en ordre. Elle appelle Albert, pas de réponse. Elle décide donc d'inspecter l'étage qu'on atteint par un vieil escalier de bois, genre qui craque et qui fait du bruit quand on l'emprunte. Arrivée en haut, elle va dans la chambre. Et quand elle ouvre la porte, elle découvre une scène macabre. Albert repose sur le lit, allongé sur le dos, inanimé. Affolée, Marie-Thérèse redescend et appelle le médecin du village, le docteur Zaromba, qui arrive sur les lieux quelques minutes plus tard. Trop tard. Albert Lermoyer est mort. Après un rapide examen, le médecin conclut un décès d'origine naturelle, probablement un infarctus ou un AVC. Très vite, la nouvelle fait le tour de la commune. Dans les heures qui suivent, de nombreux habitants défilent dans la chambre du défunt. Marie Goodson, journaliste à La Voix du Nord, et Dominique Lermoyer nous racontent l'ambiance qui règne dans la pièce.
C'est un événement, en fait, quand la belle-sœur le découvre, et en plus que tout le monde croit à une mort naturelle, ce qui fait que, en fait, tout le monde défile dans sa chambre, dans sa maison. C'est un peu le défilé des amis et des connaissances. Et comme dit le médecin qui l'a examiné à sa mort, en fait, c'est vraiment le troupeau d'éléphants dans le magasin de porcelaine. Tout le monde a marché là comme si c'était un lieu public.
Ils étaient venus en fait en soutien de la famille. Hein. Lorsqu'on a la brutalité comme ça d'une mort, eh bien, les gens le savent assez rapidement et puis sont là aussi pour être accompagnants et donc venir donner son soutien moral.
Pour les proches d'Albert, ce choc est terrible, bien sûr. Et une question s'impose. Quelle est la cause de ce décès brutal? Après tout, 46 ans, c'est un peu jeune pour faire un infarctus. Même si ça arrive, bien sûr. D'ailleurs, la question taraude également le docteur Zaramba. Alors qu'il est de retour chez lui, il est pris d'un doute. Il revient donc rue de la Fontaine. Lors de sa deuxième auscultation, il s'attarde sur une petite plaie là au coin de l'œil gauche d'Albert. Il avait d'abord pensé à un glaucome, mais la trace semble suspecte. Il soulève donc la tête du défunt et remarque un filet de sang couler depuis l'oreille droite. Et cette fois c'est clair, Albert n'est pas mort d'un arrêt cardiaque. En réalité, la plaie au coin de l'œil est un impact de balle, sans doute de très petit calibre. La conclusion est donc sans appel, le Benjamin des Lermoyers a été assassiné. Comment ça, un meurtre à l'écluse? Impossible. Dans le village, évidemment, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Il faut dire qu'ici, tout le monde ou presque connaît et apprécie la victime. Albert a la réputation d'être un bon gars, toujours prêt à rendre service. Ainsi, il n'est pas rare de le voir le dimanche plumer la volaille chez un voisin ou tracter une vache embourbée dans un marais. Et ce n'est pas tout. Grâce à sa bonhomie et son sens du contact, cet ouvrier papetier de profession s'était même lancé dans la vie politique locale. Comme nous le rappelle son neveu Dominique.
Il a été non seulement conseiller municipal, il a été aussi adjoint au maire, en ayant toujours fait à chaque fois donc, de très beaux scores. Et en cela, finalement, il a poursuivi l'action que menait son propre père, hein, puisque mon grand-père aussi a été conseiller municipal, a été aussi, lui, adjoint au maire. Hein, donc, en tant qu'adjoint, Albert était un homme donc, au service, hein, au service des autres, proche des gens. Il était dans une municipalité avec l'étiquette effectivement communiste, mais sans être dans un courant de pensée très fort. Il y avait au sein du conseil municipal d'autres représentants donc du parti communiste, hein, donc qui eux faisaient partie de la cellule, hein, donc communiste donc du village, et avec lesquels il était pas toujours en accord. Hein. Ce sont des courants de pensée, mais sans que ce soit, bien évidemment, là, dans l'idéologie, hein, c'est avant tout essayer de donner pour une commune donc, les moyens de sa subsistance.
À l'écluse, le fond de l'air est rouge, et Albert Lermoyer était un adjoint au maire, populaire et investi. Alors, qui pouvait lui en vouloir à ce point? Dans l'après-midi, une équipe de la gendarmerie est dépêchée rue de la Fontaine. La ferme est fouillée de fond en comble. Pour les enquêteurs, l'enquête s'annonce difficile, car comme on pouvait le prévoir, le passage de nombreux voisins souillait la scène de crime et aucune empreinte n'est exploitable. Mais ce premier état des lieux permet tout de même d'éliminer l'hypothèse du rôdeur. Car rien n'a été volé, l'intérieur est en ordre et il n'y a aucune trace de lutte. En réalité, le crime ressemble plutôt à une exécution froide réalisée par un tueur méthodique. Pourtant, et malgré l'aspect inhabituel du crime, l'affaire ne passionne pas les foules en dehors du canton. Ainsi, dans le journal régional La Voix du Nord, ce meurtre est à peine évoqué dans un article de Pierre Varlet, coincé entre une affaire de pyromane et un cambriolage chez Prise Unique.
La petite commune de L'Écluse, aux lisières du Douaisis et de l'Artois, est en émoi. Mardi matin, un conseiller municipal a été découvert sans vie par un membre de sa famille et le médecin a refusé le permis d'inhumer. Monsieur Albert Lermoyer, 46 ans, après avoir été agriculteur, travaillait chez Béguin. Conseiller municipal sérieux et serviable, il était estimé de tous. Célibataire, il habitait dans l'ancienne ferme de ses parents, qu'il avait fort bien aménagée, rue de la Fontaine. La gendarmerie se refuse à tout commentaire.
Au lendemain des crimes, les enquêteurs parcourent la rue de la Fontaine et interrogent les voisins directs de la victime, l'enquête de voisinage. Ainsi, un emploi du temps est établi. La veille du meurtre, l'homme a passé la soirée avec ses deux chiens chez Henri et Marie-Thérèse, son frère et sa belle-sœur. D'ailleurs, un détail retient l'attention des gendarmes. La nuit du crime, personne n'a entendu ces deux chiens alors qu'ils sont réputés très méfiants. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi ce vieil escalier bruyant qui monte jusqu'à sa chambre. Si le meurtrier l'avait emprunté pendant la nuit, il est certain qu'Albert aurait été réveillé par les grincements du bois. Alors, avec ces éléments, un scénario se dessine. L'assassin aurait profité de l'absence d'Albert pour s'introduire dans la ferme, monter dans la chambre et attendre patiemment le retour de la victime, comme le raconte Dominique Lermoyer.
La disposition des lieux, effectivement, amène à penser que le meurtrier est resté tapis dans l'obscurité, puisque d'une part, il aurait fallu éviter de ne faire aboyer les chiens, donc en s'introduisant dans la maison après que Albert n'y soit rentré. Il aurait fallu ensuite réussir à monter l'escalier, qui était un escalier en bois, un escalier ancien qui faisait du bruit. Et donc, Albert, entre les aboiements des chiens et puis le bruit de l'escalier, se serait réveillé. Il n'aurait pas été retrouvé comme ça, comme endormi.
Mais alors, comment l'assassin est-il entré ? Oh, la réponse arrive vite. Albert cachait un double des clés dans le coin masqué d'un rebord de la fenêtre. Pas masqué pour tout le monde, il était facile d'entrer sans éveiller les soupçons. Et donc, une première piste se dégage, l'assassin fait partie des proches d'Albert. Il connaissait par cœur toutes ses petites habitudes, ainsi que les lieux du crime. Et surtout, il a fait preuve d'un sang-froid exceptionnel. Son profil semble donc très particulier. L'homme ou la femme est un ou une habitué du maniement des armes, méthodique, déterminé. Deuxième étape, les enquêteurs partent à la recherche d'éléments matériels. Deux jours après les faits, le 27 janvier 83, un premier indice est découvert. La balle qui a tué Albert est délogée d'une plainte à côté du lit. Il s'agit d'une balle de 8 mm, un petit calibre rare qui n'est plus utilisé depuis de nombreuses années. Après une analyse approfondie, les enquêteurs identifient l'arme du crime et elle est plutôt inhabituelle. Il s'agit d'une copie espagnole du célèbre Smith & Wesson datée de 1892. D'importants moyens sont mis en œuvre pour la retrouver. Ainsi, des dizaines de gendarmes investissent la commune. Les pieds dans la boue, ils inspectent les alentours. Mais la tâche, une fois de plus, s'annonce compliquée. Le bourg est entouré par des centaines d'hectares d'étangs et de marais. Après des jours de recherches infructueuses, elles sont abandonnées. Le périmètre est trop grand et les recoins trop nombreux. Et puis, L'Écluse est un village de chasseurs. Ici, on aime se retrouver au crépuscule avec un fusil, une bouteille, un sandwich pour aller tirer le gibier d'eau. Les armes à feu sont donc nombreuses et pas forcément toutes répertoriées. Alors, faute d'éléments matériels, les gendarmes décident de se concentrer sur les témoignages. Et décidément, de ce côté-là également, l'affaire s'annonce tout aussi délicate. Il faut dire que L'Écluse a une réputation sulfureuse. Les bagarres y sont fréquentes et les habitants ne se laissent pas facilement approcher. Bref, c'est un village à part, comme le raconte Marie Goodson, la journaliste qui a enquêté sur l'affaire.
C'est un village à part parce que il est enclavé, c'est un village du Nord qui est complètement enclavé dans le Pas-de-Calais, ce qui est rare. Le fait que c'est un fief du Parti communiste et puis c'est un village agricole qui est entouré de marais, donc ça donne aussi une ambiance particulière à cette commune. Et ce qu'on m'avait dit d'autre, c'est que c'est un village qui a mauvaise réputation. Alors on m'a parlé de bagarreurs, de grandes gueules, etc. Et le juge d'instruction, Éric Alphen, elle m'avait dit que c'était une petite Corse où régnait l'omerta.
Et dans les premiers jours de l'enquête, c'est bien cette omerta qui règne, effectivement. Les gendarmes se retrouvent face à des portes closes et des bouches cousues. C'est dans cette ambiance pesante que, 4 jours après le meurtre, le 29 janvier 83, les funérailles de l'ancien adjoint se tiennent dans la petite église de Bourg. Et tous les habitants, ou presque, sont présents. Pierre Barlet couvre un nouvel événement pour la Voix du Nord.
À l'écluse, tristesse et incompréhension ont présidé aux funérailles de M. Lermoyer, l'adjoint assassiné dans des conditions mystérieuses. Une même pensée se devinait chez les habitants de l'écluse, venus très nombreux. Qui pouvait en vouloir à cet homme paisible, unanimement estimé tant pour son affabilité que pour sa serviabilité ? Incompréhension devant un geste horrible, peine sincère ressentie par ses nombreux amis, émotion de ses collègues du conseil municipal, tels étaient les sentiments qui dominaient samedi. Une enfance heureuse au sein d'une famille unie, une conduite irréprochable tant au niveau professionnel que sur le plan de sa vie personnelle, une attitude de bonté naturelle qui rejaillissait sur son entourage. Dans l'allocution qu'il prononça lors de la cérémonie funèbre, le maire de l'Écluse, M. Varlet, brossa un portrait fort élogieux de ce collaborateur apprécié, autant pour sa clairvoyance que pour son action municipale. Quant à l'enquête, tout laisse croire que le week-end permettra aux gendarmes de rassembler les maigres éléments dont ils disposent et de faire le point. À l'écluse, la perplexité et l'incertitude restent de mise.
Derrière ce ton unanime, quasi hagiographique autour de la victime, dans les maisons et les cafés, les rumeurs vont bon train. Et bientôt, l'écluse semble pris d'une sorte de fièvre, comme si le meurtre d'Albert avait libéré les passions tristes et les conflits refoulés. Peu à peu, l'omerta des débuts laisse place à un flot de commérages et d'accusations, avec au centre, toujours le même sujet, la vie intime, plutôt singulière, d'Albert Lermoyer. Car derrière sa réputation d'homme affable et d'adjoint communiste dévoué, le fringant quadragénaire était aussi un grand séducteur. Costume rayé, cheveux peignés en arrière et sourire charmeur, il avait de l'allure et il profitait de sa vie de célibataire. Forcément, ce mode de vie en dérangeait plus d'un. Les jaloux, les moralistes et les frustrés, ça fait du monde, ici comme ailleurs. À moins qu'il ne s'agisse d'un mari coiffé, comme on dit là-bas, ou d'une maîtresse congédiée.
Au fond de la baie de Somme, des familles sur des transats, le pommier, les pommes. Je regardais la mer qui brille dans l'été parfait. Dans l'eau se baignaient des jeunes filles qui m'attiraient. Les promenades le long des dunes en voiture, pendant qu'elles regardaient en haut la lune pure. Mettaient dans mes mains leurs doigts et j'étais le roi, comme dans les chansons d'amour d'autrefois. Tous ces petits moments magiques de notre existence, qu'on met dans des sacs plastiques et puis qu'on balance, tout ce gaspille de nos cœurs qui battent, tous ces morceaux de nous qui partent. Plein de réservoirs au départ. On avance, c'est une évidence. On n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. On avance, on avance. Tu vois pas tout ce qu'on dépense. On avance, faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense. Le soir avec les petits frères, on parlait, on voulait tout le monde refaire, on chantait ces musiques et ces mots tendres comme ils datent, ces lettres d'amour attendent dans quelle boîte. Tous ces petits mots
magique de notre existence, qu'on met dans des sacs plastiques et puis qu'on balance. Tout ce gaspille de nos cœurs qui battent, tous ces morceaux de nous qui partent. Il y en avait plein le réservoir au départ. Pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense, il faut qu'on avance.
Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
L'écluse, mars 83. Voilà plus de deux mois qu'Albert Lermoyer, l'adjoint au maire, a été assassiné chez lui, pendant son sommeil, d'une balle de 8000 mètres en pleine tête. L'enquête maintenant se resserre autour de la vie sentimentale d'Albert. Puisque les gendarmes sont persuadés que l'assassin ou la meurtrière est un ou une proche de sa victime. Il y a par exemple cette voisine de la rue La Fontaine, avec qui Albert prévoyait, dit-on, de se mettre en ménage. Il y a aussi cette ouvrière avec qui il avait eu une petite fille. Et bien qu'Albert ne l'ait jamais reconnue, elle lui ressemble tellement que tout le monde ici sait qu'il en est le père biologique. Les gendarmes décident de creuser la piste. Ils convoquent les deux femmes ainsi que leurs proches. Hélas, les témoignages ne donnent rien et les alibis sont solides. L'hypothèse est donc écartée. Au même moment, une autre rumeur leur arrive aux oreilles. Celle d'une liaison avec une femme déjà très présente dans le dossier, Marie-Thérèse, la belle-sœur. Après tout, c'est elle qui a découvert le corps. Et puis Albert avait pour habitude de prendre presque tous ses repas chez elle, dans la maison juste à côté. Alors, ces visites fréquentes cachaient-elles une liaison? Pour les gendarmes, la piste est sérieuse. Elle mérite même une démonstration implacable. Ainsi, deux mois après le crime, le 4 mars 1983, sans ménagement, Marie-Thérèse est placée en garde à vue. Chez les Lermoyer, la nouvelle est accueillie avec un mélange de colère et d'abattement. Non seulement ils ont perdu l'un des leurs, voilà qu'aujourd'hui un membre de la famille est soupçonné. Le fils de Marie-Thérèse, Dominique, raconte l'interrogatoire musclé qu'a subi sa mère.
Elle a été interrogée comme une criminelle en puissance, hein, n'ayant pas peur des mots, hein, puisque son interrogatoire a été mené de 13h30 jusqu'à 24h, hein, sans que ne lui soit fourni de réels moments de repos. Elle n'était pas en bonne condition physique, ne serait-ce que par la proximité, hein, donc du deuil, hein, de la perte cruelle, donc, d'Albert. Puis elle a eu des malaises liés donc à une très forte augmentation donc de sa tension. Malaise tel que la gendarmerie de Douai, voyant que ça prenait une mauvaise tournure, a fait appel à une infirmière de leur connaissance. Hein, c'est-à-dire n'ont pas eu le professionnalisme de demander à un médecin de venir. Elle a donné à ma mère donc des cachets dont ma mère n'a jamais su quel en était le contenant. Et donc dans un état donc de choc, hein, ne serait-ce que de choc tensionnel. Eh bien, ma mère a signé des papiers sans savoir véritablement ce qu'elle signait.
Malgré la pression exercée sur Marie-Thérèse, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Aucun élément ne plaide pour sa culpabilité. Mais le mal est fait. Les soupçons continuent de peser sur elle et sur une partie de la famille Lermoyer. Dans le village, on ne parle que de ça. Et deux camps s'affrontent, entre soutien et suspicion. Pour les gendarmes, la situation est loin d'être idéale. Leurs échecs répétés et leurs procédés brutaux ont affaibli encore un peu plus leur code de confiance. À l'été 83, l'enquête semble au point mort. Les racontars n'ont mené qu'à des impasses et à l'écluse, on commence à trouver le temps long. Ainsi passent les mois. Et au début de l'année 84, un an après le meurtre, un nouveau juge d'instruction prend le dossier en charge. Un certain Eric Alphen. Oui, le futur juge de l'affaire des HLM de Paris. Il est alors un jeune magistrat de 24 ans qui sort tout juste de l'école. L'affaire Lermoyer est sa première véritable affaire criminelle. Et comme l'enquête est à l'arrêt, il prend une décision radicale. Il dessaisit les gendarmes de Douai au profit de la PJ de Lille. Et très vite, les policiers font une découverte importante. Albert entretenait une relation avec une fermière haute en couleur et du village, une certaine Marcel. La piste est intéressante. Cette femme est une figure locale. À l'Écluse, tout le monde ou presque la connaît. Et elle est loin de faire l'unanimité. Pire encore, elle semble en conflit permanent avec la moitié du village. À vrai dire, on la croirait sortie tout droit d'un roman de Zola. Indiscrète, manipulatrice, vantarde. Le portrait qu'en dressent les habitants est saisissant, comme le rappelle Marie Goodson, journaliste à La Voix du Nord.
Marcel, c'est comme Albert, un personnage à l'Écluse. D'abord parce que c'est l'égérie du Parti communiste à l'époque. Elle est porte-drapeau. Et ce qui ressort, c'est qu'elle est assez clivante. Les personnes que j'ai rencontrées m'ont raconté beaucoup de choses à son sujet, alors que c'est une maîtresse femme, une personnalité dominante, et qu'on lui prête en fait beaucoup d'activités ou de comportements troubles, comme par exemple de servir d'intermédiaire pour des couples illégitimes. Il y a plein d'histoires en fait autour de ce personnage de Marcel.
D'ailleurs, parmi les histoires plus ou moins rocambolesques qui circulent à son sujet, quelques-unes retiennent l'attention des enquêteurs. Il se raconte, par exemple, que chaque soir à 22h, elle ferait le tour de la commune à l'affût de la moindre anomalie. Une fois rentrée chez elle, elle noterait scrupuleusement dans des agendas tout ce qu'elle a vu lors de ses explorations. Mais quand les policiers veulent connaître sa version, surprise! La fermière assume, elle se justifie même. Vous savez, on voit des choses. Plus tard, on pourra peut-être s'en servir, dit-elle, bravache. Mais après la lecture des carnets, c'est la déception. Les informations consignées sont sans importance pour l'enquête. Malgré cette fausse piste, les policiers continuent de creuser dans la vie de Marcel et plus particulièrement dans son entourage direct. Car même si la fermière a un caractère particulier, personne ne l'imagine capable de commettre seul un assassinat aussi bien préparé. Et justement, l'un des proches de Marcel intéresse l'enquête. Roland, son frère. Ce Léclusien est un habitué du maniement des armes. Et pour cause, il est inspecteur de police à Douai. Et ce n'est pas tout. Il est aussi un grand collectionneur de pistolets anciens, ce qui interpelle le juge Alphen qui décide de creuser. Les enquêteurs lillois filent donc sur les traces de leurs collègues. Très vite, ils identifient l'une des connaissances, propriétaire d'une petite armurerie à Douai, et son interrogatoire se révèle très enrichissant. L'homme raconte que Roland lui avait réclamé quelques semaines avant le crime des munitions de 8 mm pour un petit revolver espagnol, soit le calibre, le modèle utilisé dans le meurtre d'Albert. On avance. À l'Écluse, de nombreux proches de Marcel et de Roland sont entendus de nouveau, et à ce sujet bien sûr. Et certains témoignages renforcent les suspicions autour de Roland. Il y a par exemple Émile, cousin germain d'Albert. L'homme est convaincu d'avoir vu l'arme en question. Lors de son enquête, 40 ans plus tard, la journaliste Marie Goodson a rencontré cet Émile. Elle nous rapporte son témoignage.
Quand je le rencontre, donc il a beaucoup de choses à dire, notamment deux choses importantes. C'est qu'il est déjà allé faire des travaux dans la ferme de Marcel. Et lorsqu'il est allé carreler chez elle, il voyait l'inspecteur, donc le suspect principal, s'entraîner au tir avec son neveu au fond de la cour. Et alors l'autre élément qui est encore plus intéressant, c'est cet Émile qui me dit avoir vu une arme similaire à l'arme du crime accrochée au mur chez Marcel comme une relique, c'est ce qu'il m'explique. Et alors concernant cette anecdote, en fait ce qui est assez étonnant, c'est que il me dit attendez, alors il se lève, je vais vous montrer comment c'était, comme si c'était hier en fait, alors ça date de 40 ans. Et puis il me dit, vous entrez, c'était sur le mur de gauche, c'était une relique, je revois exactement cette arme. Je l'ai dit aux gendarmes, Et puis là, donc, il ouvre le tiroir de sa commode et puis il me sort une vieille carte de la brigade de recherche de gendarmerie et en me disant, voilà, je leur ai tout dit et malgré tout, ils n'ont jamais retrouvé cette arme.
Sans le petit revolver 8 mm qui reste introuvable, la tâche est ardue pour l'enquête. Mais malgré l'absence d'éléments matériels, le juge n'abandonne pas la piste. Parce qu'une question l'obsède. Si Roland est le tueur, quel est le mobile ? Pour tenter d'y répondre, le passé du suspect est disséqué. Et là, surprise, ce n'est pas la première fois que son nom apparaît dans un dossier criminel. Le 15 janvier 82, en effet, un an avant le meurtre d'Albert, la femme de Roland, Thérèse, disparaissait dans d'étranges conditions. Seul indice, sa voiture, une Renault 5 Claire, retrouvée 3 jours plus tard, portes ouvertes devant la gare de Béthune. Mais après, plus rien. Thérèse s'est comme volatilisée. Très vite, l'éventualité de la disparition volontaire ou du suicide avait été écartée. La mise en scène semblait trop grosse. L'hypothèse criminelle avait donc été privilégiée. À ce titre, l'enquête des gendarmes avait même révélé plusieurs éléments intéressants. Ainsi, on avait découvert que la femme originaire de Béthune n'avait jamais été acceptée à l'écluse. On lui reprochait tout et n'importe quoi, fumer le cigare, boire du whisky ou encore sortir tard le soir. Surtout, plusieurs témoins avaient raconté les disputes orageuses avec son mari. Roland, l'inspecteur de police, était donc devenu le principal suspect dans la disparition de sa femme. Pour les gendarmes de l'époque, il avait le profil. À l'écluse, on racontait même qu'il lui arrivait, tard le soir, après quelques verres, de se vanter d'avoir fait disparaître le corps. Malheureusement, ce faisceau de présomption n'avait pas suffi. Aucun élément matériel ou témoignage concordant n'était venu confirmer l'hypothèse. Il était donc resté libre. Détail important, au moment du meurtre d'Albert, l'enquête sur la disparition de Thérèse était en cours. Alors on se dit, et si Albert Lermoyer avait surpris un détail embarrassant à propos d'affaires concernant la femme de Roland ? Aurait-il pu savoir, par exemple, où était le corps ? Pour les policiers, ce mobile semble plausible. Ainsi, près d'un an et demi après le crime, en mai 84, Roland est convoqué dans les bureaux de la PJ à Lille. Et la partie s'annonce serrée. Inspecteur de police, il est évidemment rompu aux techniques d'interrogatoire. Sans surprise, il nie en bloc. Il n'a rien à voir dans la mort d'Albert, ni même d'ailleurs dans la disparition de Thérèse. D'après lui, les témoins n'ont pas bien vu. L'armurier ment. Jamais il n'a eu en sa possession de revolver espagnol ou de balles de 8 mm. Face à la pression des collègues, l'homme tient bon. Et après quelques heures, il est relâché. Mais le juge Alphen persiste. Quelques semaines plus tard, il organise dans son bureau de Douai une confrontation entre Roland et l'armurier. Et là encore, ça ne donne rien. Roland continue de nier les faits. Alors, sans aveu, ni élément matériel, l'enquête s'enlise. Les mois passent, le juge est muté, l'affaire Lermoyer tombe peu à peu dans l'oubli. 8 ans après le meurtre de l'adjoint, le 4 février 1991, un non-lieu est prononcé. 3 ans plus tard, en août 1994, Roland meurt. À jamais, il est innocent du meurtre d'Albert et de la disparition de sa femme. Pour les Lermoyer, c'est une double peine. Et la douleur ne les a jamais quittés. Dans les années qui suivent, Marie-Thérèse et Henri tentent tout leur possible pour connaître la vérité, comme le raconte leur fils Dominique.
Ça tournait dans les têtes. Mes parents ont mis en œuvre tout ce qu'ils pouvaient pour découvrir donc la vérité. Avec le temps qui passait, avec les investigations qui s'étaient arrêtées, eh bien, cet espoir s'amenuisait petit à petit. Ensuite, ils se sont retournés vers des médiums. Ils ont contacté différents médiums. Parmi ces médiums, l'une d'elles agissait au niveau des médias de l'époque. Hein, autant que je m'en souviens, elle intervenait dans une émission télévisée. C'était pour l'espoir de connaître la vérité.
10 ans après le non-lieu, en 2001, aucun élément nouveau n'ayant été apporté au dossier, l'affaire est prescrite. Un an plus tard, en 2002 donc, Marcel meurt, en haut du village, dans le silence de la ferme où il a toujours vécu. Les années défilent et les rares indices s'effacent. En 2008, un comble. C'est tout le dossier d'instruction qui disparaît. Oui, lors d'une erreur de manipulation au moment de la mise en place du système informatique Cassiopée. Pourtant, malgré tous ces coups du sort, la famille Lhermoyer n'abandonne pas, et en particulier l'une des jeunes protagonistes de l'affaire devenue adulte, la fille biologique d'Albert. Depuis des années, elle mène sa propre bataille sur les traces de ce père qu'elle n'a jamais vraiment connu, comme l'explique Marie Woodson.
Cette femme a fait énormément de recherches à la mort de sa mère pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer, pour elle aussi avoir des réponses sur sa propre identité. Donc elle est allée à la rédaction de La Voix du Nord, elle s'est plongée dans les archives, elle a contacté toute la famille Lhermoyer, elle a rencontré ses oncles et tantes, et puis elle a écrit au procureur, à la ministre de la Justice de l'époque, Christiane Taubira. Mais en fait, elle a eu très peu de réponses parce qu'elle voulait la réouverture de l'enquête et on lui a répondu qu'un non-lieu avait été prononcé et aussi que le dossier était prescrit suite à ce non-lieu.
Aujourd'hui à l'écluse, rue La Fontaine, la petite ferme d'Albert est occupée par sa filleule, Marie-Antoinette. Le reste de la famille Lhermoyer s'est dispersé, loin du fantôme de l'adjoint. Dans le village, depuis le crime, tout a changé. La papeterie où travaillait Albert a fermé, le chômage de masse s'est installé. Signe des temps, en 2014, les communistes ont même perdu la mairie après des décennies à la tête de la commune. Pourtant, à y regarder de plus près, l'atmosphère n'est pas si différente de celle de 1983. La tradition de la chasse à la hutte persiste, les petites exploitations agricoles sont toujours aussi nombreuses et les relations sociales oscillent entre coups de main généreux et coups de poing musclés. Néanmoins, au milieu de ces terres humides, le crime continue de hanter les plus anciens. En 2020, la journaliste Marie Gouneuse, qu'on a entendue tout au long de ce récit, déterre l'affaire et enquête sur le meurtre d'Albert. Aujourd'hui, elle reste optimiste. Quelqu'un, quelque part, connaît la vérité.
Je vis à l'heure dans le cœur d'une montre arrêtée. Le temps s'est envolé, a cessé de couler. Les jours passent comme de l'eau à mes pieds immobiles, de grandes roues dentelées semble me regarder. L'amour suit son cours et le cours de ce jour est le maître a dit aimer. La rivière chante quand je chante, la nuit va s'allonger au fond de la vallée où le jour l'a quitté. Des lions dorment à mes pieds, près du feu allongé, près d'un loup solitaire qu'ils aiment comme un frère. Le maître dit respirer. Au loin il passe des trains qui jamais ne m'emmènent dans la gare oubliée, la ville est souvenir. En vain chante ce train et je sais où il mène, dans la gare désertée chante un autre avenir. L'amour son cours et le cours à ce jour. Le maître a dit rester. vaisseaux, le coule des branches qui doucement se penchent sous les lueurs du ciel, tendrement reflétées. Si parfois une rose semble dire quelque chose, c'est chuchoter au cœur, et seulement quand elle ose, pas besoin d'autre chose. Pense tes échymoses, ne pense plus à ces choses, c'est là que tu te poses. Ton voyage t'alourdit, oiseau du paradis, et le coup d'aujourd'hui, c'est va donc la retrouver.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire de l'Écluse. Notre invité, Patrice Trappier. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été grand reporter et vous avez écrit de nombreux ouvrages. Mort d'un SDF chez Calman Lévy, par exemple, ou Génération Routard chez Jean-Claude Attès. Et plus récemment, vous avez enquêté sur l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Votre article est paru dans le magazine Zadig en septembre dernier. Zadig, notre partenaire. Quelle bonne idée d'exhumer cette histoire. À mi-chemin entre l'ambiance Vologne, on va dire, et absolument, l'ambiance Chabrol, hein.
Et puis je pense à Simenon souvent.
Et Simenon, bien sûr.
Mais en fait, je pars avec l'idée de Simenon, c'est-à-dire que Zadig, ça raconte la France d'aujourd'hui,
oui,
des territoires vrai, un peu à l'écart des grandes métropoles. Puis je tombe sur Agatha Christie, parce que vous l'avez excellemment raconté, mais c'est une mécanique criminelle absolument incroyable. Donc il y a les deux. Il y a d'un côté un pays... Souvent, j'ai l'impression, en partant en reportage, que je suis au bord du monde. Pas au bout du monde, parce qu'on est à 10 km de Douai, donc une ville assez importante, mais au bord des marais, au bord de la civilisation contemporaine, hein, peut-être les gilets jaunes, ces chasseurs de huttes qui refusent les éoliennes, communistes et Front National, enfin.
Ouais. Ça montre bien d'ailleurs cet endroit de la France, ce village, d'un point de vue sociologique et sociopolitique. Il dit beaucoup de l'évolution politique de la France.
C'est ça.
Et de la classe ouvrière.
Oui, avec une certaine permanence. Il y a encore beaucoup de petits agriculteurs dans ce coin, qui en même temps sont ouvriers, font les 3-8 comme Albert. Ils ont des vies. Et puis il y a beaucoup d'économies de subsistance. On fait l'ail chez le copain, qu'on fait sécher, qu'on vend, on vend ses poulets, ses œufs. C'est une France très ancienne. Et puis en même temps, bon, elle est d'aujourd'hui. Elle est à 10 km des usines Renault très modernes où on va faire des batteries électriques. C'est très étonnant, ce paradoxe.
Mais qu'est-ce qui vous a intéressé au point d'en faire un article? Il y a des ingrédients particuliers au-delà de ça, ou c'est le contexte qui vous intéresse?
Non, il y a quand même le livre d'une jeune journaliste, Marie Goodson, qui veut plus faire de faits divers, qui tombe sur cet article et qui est prise, parce qu'il y a une mécanique. Le crime non résolu, c'est une mécanique infernale.
Bien sûr.
Et puis, le juge Alphen, qui quand même, dans son livre sur l'affaire DHLM de Paris, il y consacre certaines pages à cette affaire. Il est marqué, pas uniquement parce qu'il commençait sa carrière. On ne cesse de se demander, est-ce que c'est cet inspecteur? Il y a quand même un crime de voisinage, mais avec une technique de criminel quand même extrêmement... Enfin, tout le monde ne peut pas faire ça. Je suis monté dans cette chambre.
Ah, justement, je vais vous le dire. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez retenu?
Alors, l'escalier ne grince plus, il a été refait. Puis il n'y a plus les deux chiens, Belle et Tommy. Mais quand même, je me suis mis dans ce recoin pendant une minute, deux minutes, mais... J'entendais ma respiration et je me disais, mais comment ce type, on ne sait pas qui a fait ça, mais la personne...
Ou cette femme,
oui, parce qu'on quand même, il y a ce frère et cette sœur, mais en tout cas, comment on peut rester autant de temps à attendre qu'Albert Lamoyer rentre, se prépare, se couche, s'endorme pour aller faire en plus un crime? Le docteur Zaramba, il ne le voit pas, c'est-à-dire avec un tout petit calibre, enfin, c'est quand même une sorte de crime parfait, c'est peut-être exagéré, mais enfin, il faut maîtriser quand même, et quand on est dans ce... Quand j'étais dans ce recoin et que j'entendais ma respiration battre de plus en plus fort, je me disais que c'était pas possible, que si moi j'avais fait ça, Albert aurait entendu aussitôt que j'étais dans cette chambre. Et peut-être qu'on s'invente pas criminel, j'imagine.
En tout cas, au village, sans prétention, j'ai mauvaise réputation. C'était pas du tout la réputation de la victime. Au contraire. Et en même temps. Alors, d'abord, c'était serviable. Il était investi dans la vie de la commune. Il avait une vraie fibre sociale. Oui. Probablement très sympathique, très avenant. Et puis en même temps, il avait une vie qui ressemblait pas à celle des autres du village. On retrouve la fameuse mauvaise réputation de Brassens.
C'est pas le communisme de la femme de Maurice Thorez, Jeannette Thorez-Vermerche, pardon. C'est pas le communisme austère. Hein. Ça, c'était. et puis sa copine, la fermière aussi, c'était quand même. Il y avait. Alors, entre ce qui est réel, effectivement, il a eu beaucoup d'aventures. Il était célibataire, une fille naturelle. Est-ce qu'il y a eu des fantasmes? Parce qu'à partir du moment où une enquête n'est pas résolue...
c'est la machine à fantasmes. Ah bah
absolument.
Forcément.
Et les gendarmes, ils ont écouté, entendu tout le monde, et tout le village s'est mis à raconter des choses qui n'avaient sans doute rien à voir avec le crime. Probablement.
Oui, mais... D'un point de vue logique, on se met dans la peau du juge et des enquêteurs, effectivement, des relations, plusieurs relations ici et là, bien sûr cachées parce que tout le monde se connaît, ça peut mal tourner. On parlait de mari coiffé, comme on dit là-bas, de mari trompé, ouais, ou de maîtresse éconduite. Tout cela peut déboucher sur des actes irrationnels jusqu'au crime. C'est normal que la justice ait creusé cette piste-là, non?
Oui, sûrement, mais peut-être que l'enquête est devenue un peu plus professionnelle au bout d'un an, en cherchant qui avait la possibilité d'avoir ce petit calibre, d'avoir peut-être la technicité d'être dans cette chambre close. Donc l'assassin qui attend sa victime avant qu'elle rentre, c'est quand même assez rare. Enfin, je suis pas sûr que tous les maris trompés, s'ils existaient, ou des femmes déçues, aient eu la possibilité de faire ce crime. Mais il fallait connaître. Il fallait savoir que Albert laissait sa clé sur sa fenêtre.
Voilà, exactement.
Une fenêtre en demi-lune. Donc il fallait une certaine proximité. C'est pour ça que peut-être l'infirmière, la sœur et son frère, peut-être, mais bon, maintenant ce ne sont que des hypothèses et des conjectures, près de 40 ans après.
Après, on peut aussi penser que quelqu'un de la localité, de la commune, aurait embauché des tueurs, ça peut, ou un tueur. Ça peut...
C'est vrai, aussi, c'est une piste qui n'a pas été...
Qui n'a pas été, apparemment, de ce que je vois, elle n'a pas été creusée, celle-là.
Ce qui est vraiment nouveau, enfin, ce qui est très ancien dans cette affaire, c'est la scène de crime. Tous les indices sont aujourd'hui, on a des espèces de techniciens qui sont dans des combinaisons blanches de cosmonautes qui relèvent tous les ADN. La scène de crime, elle est tout le monde. La moitié du village est passée dans cette chambre et donc il n'y avait plus rien d'exploitable. Et à partir du moment où on n'a pas d'éléments matériels exploitables, on cherche les aveux. Donc la belle-sœur qui a été poussée à bout, on entend les ragots, quoi, les rumeurs, et ça tourne en rond, quoi. Et ensuite, c'est un peu tard. Parce qu'effectivement, il fallait trouver l'arme du crime.
Apparemment, le juge Alphen a bien fait déconduire les gendarmes au profit de la PJ. Hein.
Oui, même si en fait, ils ont repris un peu les mêmes. Mais ce qui est fou, c'est que cet inspecteur, il était dans le commissariat de Douai. C'est-à-dire que juge Alphen le voyait une fois par semaine. Après, il a changé de poste. Et puis lui-même, il a une histoire tragique, cet inspecteur. Il a eu une femme qui est morte dans un accident entre Noël et le jour de l'an, 7 ans plus tôt, je ne me rappelle plus très bien. Elle a glissé sur les betteraves pendant les récoltes des betteraves et elle est morte. Ensuite, il a eu ce deuxième mariage avec cette femme qui disparaît.
Ça fait beaucoup, hein.
Et lui-même est mort noyé. Tout ça n'a rien à voir, sauf qu'il y a un destin tragique sur.
Mais bien sûr.
Qu'on continue, disons.
Et qui crée la suspicion, forcément.
Absolument, absolument.
Vous avez rencontré des proches, de Marcel et de Roland?
De Marcel Laurent, oui, des proches, mais qui souhaitaient pas être cités. Mais il y a eu toute une ambiance, je pense, qui est quand même dans ce haut du village, les voisins de cette femme qui avait peur d'elle, qui à un moment ont voulu porter plainte et les gendarmes lui ont dit « Mais non, il faut pas porter plainte, elle va vous pourrir la vie. » Et puis j'ai parlé aussi avec la famille, le cousin Émile et puis le neveu Dominique, là, qui est extrêmement émouvant, qu'on a entendu pendant...
Oui. Bien sûr. Reportage. Alors, parlez-moi du témoignage d'Émile. Il est assez accablant, ce témoignage.
Il est accablant. Moi, j'ai passé du temps avec lui. Et je dois dire que j'avais du mal à comprendre ce qu'il me disait. Il parle vraiment un ch'ti.
Ah oui.
Il m'aurait fallu sans doute beaucoup plus de temps. J'ai trouvé que son témoignage sur la vie qu'il avait avec Albert me paraissait plus importante, la vie d'agriculteur. Il se rappelait des moments où il faisait les labours avec des chevaux de trait quand même. Il se rappelle du premier tracteur acheté d'occasion. C'est-à-dire vraiment, on est dans une toute petite économie dans les années 60-70. Le soir du crime, il est avec Albert, il regarde la télé chez la maîtresse d'Albert, après il le raccompagne, puis il part. Sur la reconnaissance de l'arme du crime, j'ai plus de doutes, mais enfin j'ai sans doute pas parlé assez longtemps avec lui. En tout cas, cette arme n'a jamais été retrouvée. Donc, quelle est la part du fantasme, quelle est la part de la réalité? Une arme très rare d'ailleurs.
Bien sûr.
Un vieux revolver, ancêtre du Smith & Wesson,
De 1892. Autre chose, alors peut-être que c'est une piste qui n'a pas été explorée non plus, on rappelle qu'Albert était un élu, adjoint du maire, est-ce que la piste politique a été explorée ou est-ce qu'elle paraissait vraiment trop légère, quoi?
Elle paraît légère, on a parlé d'histoire d'argent, mais ça paraît peu probable. Il n'y a pas eu d'éléments tangibles, en tout cas je n'en ai pas trouvé, qui aille dans cette piste. C'était un agent électoral, c'était un type sympa qui ramenait beaucoup de voix, mais on est vraiment dans une politique très familiale, où d'ailleurs il y a toujours un conseiller général communiste aujourd'hui, qui n'a pas de si mauvaise relation que ça avec la mairesse, qui est la pharmacienne, qui a des élus du Rassemblement National. Il y a même Marion Maréchal qui est venue en 2017 faire un meeting dans cette ville. C'est très très étrange, les clivages politiques.
On est dans le Nord, c'est Beaumont-Hénin, c'est la même chose.
C'est ça, et on sent d'ailleurs vraiment, on sent des troupes, toute une France très populaire, très acquise à Marine Le Pen, et puis des communistes qui n'ont pas les mêmes convictions, mais quand même qui partagent une certaine sensibilité. La chasse, la bouffe française, enfin, on sent dans cette campagne électorale d'aujourd'hui pas mal de réminiscences comme ça. Quand on fait des reportages, quand on est dans le Sud, on voit très bien une France un peu zémouriste. Et puis dans le Nord, on est vraiment chez les marinistes. C'est pas du tout pareil.
N'empêche que la désertion du Parti communiste, qui organisait la vie sociale dans ces régions-là, a fait beaucoup de mal au social de ces régions-là. Des orphelins politiques.
Albert travaillait dans la plus grande papeterie un certain moment, c'était la plus grande papeterie du monde, faite par Ferdinand Béguin, qui a fait le Sûr, qui a été actionnaire du Figaro et de Paris Match. Enfin, c'était un empire qui est parti. Et puis les nouvelles industries, beaucoup plus techniques, n'employaient pas les mêmes types de personnel, il fallait être beaucoup plus formé. On est passé à une autre France.
La formule est souvent galvaudée, mais peut-on parler en l'occurrence de crime parfait ?
Techniquement, oui, en tout cas, Alphen a mis beaucoup, beaucoup d'énergie avec les policiers, et ils n'ont pas trouvé la preuve. Donc d'une certaine manière, c'était sans doute peut-être plus facile à l'époque, sans l'ADN, sans tous ces éléments-là.
Pensez-vous, comme Marie Goodson, que quelqu'un, quelque part, connaît la vérité ?
On l'espère, avec un tel mystère. On l'espère d'abord pour la famille, parce que ça laissait beaucoup de traces. 40 ans après, les neveux sont, ou cette fille naturelle, qui a reçu d'ailleurs une petite lettre de Taubira à l'époque, avec des sentiments éplorés. On l'espère, mais c'est très difficile. Il y a cette phrase assez extraordinaire du fils de l'inspecteur qui dit « on le saura jamais ». C'est dans le livre de Marie Goodson, je trouve cette phrase extraordinaire. « On le saura jamais ». Et puis même si on sait, on ne saura pas. Il y a ces marais.
Et ça veut dire quoi, ça? Même si on sait, on ne saura pas.
On ne saura pas. C'est très mystérieux comme phrase, mais ça ressemble à ces marais où il y a des sortes de fantômes et d'ombres. On ne saura pas parce qu'on ne se replacera peut-être pas dans le même contexte. Peut-être que lui espère que... Je ne sais pas. C'est une phrase qui me fascine. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais ça exprime un état d'esprit sur place.
C'est pour ça que ça fascine. C'est parce qu'on n'a pas la réponse.
Absolument.
Vous avez rencontré des membres de la famille Lermoyer, dont Dominique, évidemment, que nous avons entendu lui aussi tout au long du récit, un vrai fil rouge. Comment vont-ils ? Quelle place occupe Albert aujourd'hui dans leurs souvenirs ?
Une place assez importante. Ils mènent leur vie, mais la famille s'est complètement disloquée. Il y a eu des conflits. C'est une sorte de fantôme pour eux. Ils aimeraient savoir qui a tué. Et puis surtout, en sortir de cette histoire que c'est quelqu'un de la famille ou que c'est, enfin, cette histoire que Albert couchait avec sa belle-sœur, c'est sans doute l'accusation la plus grave, la plus farfelue et qui a beaucoup pesé. Et que une partie des enfants étaient les enfants d'Albert. Ça, c'est, on est dans le fantasme de l'inceste. On est dans des choses qui pèsent beaucoup. Et c'est pour ça, au moins, ils aimeraient voir la vérité.
Dernière question, à l'écluse maintenant, au-delà de la famille, chez les l'éclusiens, on dit comme ça.
Je crois l'éclusien, oui.
Bon, on continue de parler de ce crime, on se dit, bon, ça va, ça a noirci notre vie, on oublie.
Et pas mal de gens n'aiment pas en parler, mais le livre s'est vendu en 2 ou 3 jours à 100 exemplaires.
Ah, comme quoi.
Et en fait, très très vite, les plus anciens en parlent. Et même les plus jeunes sont un peu marqués par cette histoire. On en parle encore, 40 ans après.
Ça fait partie de l'identité de la commune. Patrice Trappier, merci infiniment pour toutes ces précisions.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le mystère de l'écluse. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos. À suivre, voilà, c'est vrai.
Il en manquait.
Ah oui, pop.
Voilà. Bah oui, pop.
Bonjour Antoine Decaux.
Bonjour Fabrice.
Fabrice.
Bah oui, ça va très bien. Vous aimez le cinéma, je sais.
Bah oui.
Bon, alors, mercredi qui arrive, là, dans 48 heures, réservez votre séance pour aller voir Goliath.
Vous me faites plaisir.
Oui, d'ailleurs, je connais le pitch comme tout le monde, et j'avais envie, voilà. Ça tombe bien, vous confirmez.
Film exceptionnel, et nous allons en parler avec Gilles Lellouche dans quelques instants.
Juste après Flash, merci.